Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Bon retour à tous. Il est 10h et maintenant, c'est la chronique à Madden. Salut, ça va bien?
Salut, ça va très bien.
Ben oui, merci. De quoi tu viens de parler aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, en fait, je vais parler de Québec solidaire, de la course à la chefferie au coporte-parole, qui est de coporte-parole et surtout d'un candidat en particulier qui s'appelle Yves Bonnier-Vigier, qu'on ne connaît pas beaucoup.
Okay.
Donc, je vais juste parler un petit peu généralement du contexte de la course à la chefferie et après ça, forcément, du personnage en question.
Ok. Tu peux-tu nous présenter le contexte de la course?
Alors, le contexte, c'est que donc, la course au porte-parole, donc, pour présenter très brièvement, Québec solidaire, c'est un parti québécois de gauche qui existe depuis 2006 et qui vise notamment une rupture nette avec le néolibéralisme et en parallèle qui réclame notamment la souveraineté du Québec. Mais en d'autres, c'est un parti qui se distingue des autres partis politiques du Québec sur la forme, parce qu'il se caractérise par un système à deux coporte-parole. Ce n'est pas un porte-parole ou un chef, c'est deux coporte-parole,
ouais.
L'un masculin et l'autre féminin, pour un petit peu, en bonne partie, symboliser une certaine parité en politique. Donc si la course a lieu, c'est dans le contexte d'une crise interne, en fait, depuis quelques années. Déjà, le parti vit une relative stagnation depuis les dernières élections québécoises de 2022, et où il a obtenu 11 députés et un deuxième aux élections partielles suivantes, contre 10 en 2018, ce qui n'est pas une forte avancée. Et plus généralement, le parti fait l'objet de très nombreuses critiques, comme par exemple... Pas tout à fait de critique, mais plutôt de remise en question, en fait. Comme par exemple, il se demande est-ce qu'il faudrait davantage se rapprocher du centre, ou bien est-ce qu'il faudrait s'assumer davantage à gauche pour plaire à davantage aux gens, et quelle place accorder aussi à la souveraineté. En plus, en parallèle, il y a eu deux courses au coporte-parole féminin après le désistement de Manon Massé. Je pense à Émilie Le Sartérien, qui a été élue fin 2023, mais qui s'est résignée rapidement après. Et après ça, Ruba Gazal, élu en 2024 et toujours en place. Mais il faut savoir deux choses qui ont ébranlé encore plus le leadership de QS. C'est le livre choc de Catherine Dorion, l'ancienne députée, qui dénonce un leadership qui serait trop centré, notamment autour de la personne de Gabriel Nadeau-Dubois. Et après ça, comme j'ai dit, la démission d'Émilie Le Sartérien, qui a mis en avant des accusations similaires. Et en parallèle, beaucoup de critiques externes assez classiques, comme par exemple par ses opposants sur le fait que QS serait trop woke ou trop interventionniste sur l'économie, pas assez souverainiste. Donc au final, Gabriel Nadeau-Dubois a démissionné car il était trop secoué par toutes ses affaires et la course vise à le remplacer. Donc finalement, on assiste à trois candidats au coporte-parole masculin. Donc Sol Zanetti, qui lui est déjà député, qui lui insiste davantage pour assumer la ligne de rupture de QS, donc une ligne très à gauche, mais aussi pour assumer encore plus la ligne souverainiste de QS. Après ça, il y a Étienne Grandmont, qui est lui-même député, qui lui insiste beaucoup sur le rapport aux mouvements sociaux. Puis Yves Bonnier-Vigier, que je vais présenter, qui se distingue quelque peu du lot.
C'est qui ce Yves? Yves Bonnier-Vigier. Alors, on n'entend pas beaucoup parler, c'est qui ça?
Alors, c'est vrai, on n'entend pas beaucoup parler. Moi non plus, je n'entendais pas beaucoup parler. J'étais assez surpris moi-même de le voir sur la liste parce que je ne connaissais vraiment pas. Donc, pour le présenter succinctement, c'est un médecin qui fait une longue carrière. Donc, il a une soixantaine d'années et il continue de travailler. Par le passé, il a travaillé en Afrique et aussi dans des régions éloignées du Québec. Donc, une sacrée expérience. Et qui est présentement basé à Gaspé. Et depuis très longtemps, il milite au sein de mouvements sociaux et il a rejoint QS vers les débuts en 2008 et s'est présenté dans ce cadre trois fois aux élections provinciales. Donc ses idées, sur les idées telles quelles, il ne se distingue pas tant des autres candidats ou du parti, donc c'est la ligne du parti, interventionniste sur l'économie, égalitariste, écologiste, féministe, démocrate, pluraliste, souverainiste. Mais il se distingue notamment sur le fait qu'il est le seul des trois candidats à ne pas être député.
Ouais.
Et c'est ce qu'il pense être... Il pense que c'est justement sa véritable force.
Okay.
Il estime que le fait d'être à la fois coporte-parole, mais ne pas être élu à l'Assemblée nationale, ça lui permettrait d'occuper en permanence le terrain. Parce qu'il ne nie pas le fait que c'est très bien d'être élu à l'Assemblée, de travailler sur les commissions et tout, sur les lois. Mais il pense qu'en fait, être coporte-parole, avec du temps libre d'une certaine manière, ça lui permet notamment de faire tout le tour du Québec, notamment des régions plus éloignées, et d'être en contact plus permanent avec les organisations sociales ou tout simplement les individus en tout genre, les individus lambda. Il compte ainsi le faire à raison de 5 jours par semaine, tout en continuant à pratiquer un 6e jour la médecine. Donc, ce qui fait qu'effectivement, c'est une vision très originale de l'engagement politique.
Ouais.
Et il compte rester ainsi. S'il est élu, il ne compterait pas se présenter aux élections québécoises de 2026.
Ok. Et puis, représente-t-il une tendance particulière au sein de QS?
Oui, à peu près, en fait, parce que son cas, ce n'est pas sans rappeler un précédent. Donc, j'ai parlé de Émilise Le Sartérien récemment, qui a été brièvement co-porte-parole, mais qui a démissionné au bout de quelques mois à peine. Donc, à l'origine, avant d'être co-porte-parole, elle était députée du Témiscamingue pour QS de 2018 à 2022. Ouais. Puis, elle a été battue. Et pour autant, même si elle était battue, elle ne s'est pas mise pour autant en retrait de la politique. Et elle s'est présentée à la course au co-porte-parole pour remplacer Manon Massé et avec pas mal les mêmes arguments que Yves Bonnet-Vigé.
Ouais.
C'est ce qu'elle voulait faire, c'était être une co-porte-parole extra-parlementaire car elle considérait, contrairement à ses deux adversaires à l'époque, que de cette manière, elle aurait un meilleur lien au terrain, notamment au Témiscamingue qui est un peu son fief et qui représente parfaitement son idée des territoires éloignés, en fait, des régions québécoises.
Ouais.
Donc, en fait, cette tendance un peu que représente Yves Bonnet-Vigier et que représentait Émilie Sartérien, c'est un peu une critique générale que l'on adresse à la guerre du Québec, on trouve que la province, dans ses politiques, est généralement un peu trop centralisée vis-à-vis des régions ou des municipalités. Mais c'est aussi une critique dont laquelle n'échappe pas QS, voire QS fait très souvent l'objet de telles critiques. On l'accuse en fait d'être un parti montréalo-centré, associé au fameux bobo du plateau. Et d'ailleurs, pendant longtemps, le son de QS, c'est le parti de la ligne orange du métro, du fait la délimitation habituelle de ses élus ou de ses militants à Montréal autour du plateau. Et Émilie Le Sartérien tenait à cœur ce projet et elle-même se définissait comme régionaliste. Et donc, quand elle a lancé ce projet, en fait, quand elle était co-porte-parole, ce qu'elle avait fait, elle avait demandé à chaque député de QS de travailler chacun pour une région du Québec en particulier, d'une certaine manière, pour se montrer plus inclusif vis-à-vis des individus de ces territoires souvent plus éloignés et habituellement peu considérés. Pour la suite des choses après, c'est assez difficile d'avoir des prédictions précises, enfin d'avoir des prédictions.
Ouais, c'est ça, y a-t-il des chances?
Des prédictions, d'avoir des prédictions objectives sur les chances d'Yves Bonnet-Vigier. C'est vrai que ça peut sembler pas mal contre-intuitif qu'il soit élu, surtout compte tenu de son manque de notoriété face aux deux autres. Enfin, je vais avouer moi-même que j'ai eu beaucoup de mal à retenir son nom. Il m'a même fallu que je mette son nom devant mes yeux pour être sûr de ne pas oublier, sans vouloir être méchant. Bref, c'est vrai qu'il est, c'est quelqu'un de relativement inconnu. Et pour le moment, c'est pas mal Étienne Grandmont qui semble bénéficier d'un momentum pendant cette course, car il est le seul à date de bénéficier du soutien de la part du caucus solidaire à l'Assemblée nationale. Plusieurs députés comme Vincent Marissal ou Christine Labrie ont explicitement amené leur soutien. Mais pour autant, quelque chose que j'ai appris très récemment, enfin une nouvelle très récente, Yves Bonnet-Vigier a obtenu le soutien, et non des moindres, de Amir Kadir.
De médecin à médecin.
C'est ça, oui, de médecin à médecin, c'est exactement ce que je voulais dire un petit peu. C'est donc Amir Kadir, un des cofondateurs de QS en 2006. Et Amir Kadir, ce qu'il disait, c'est surtout il soulignait l'expérience de Yves Bonnet-Vigier sur le terrain. Donc, sa longue expérience et effectivement aussi une expérience similaire qui est notamment liée à la fois aux mouvements sociaux, mais aussi à la pratique de la médecine, tout simplement. Donc voilà, à ce stade, je ne peux rien dire de plus. Tout ce que je peux dire, c'est que l'affaire est à suivre.
Ben oui, ça va être intéressant à suivre. Ça se fait bientôt.
Oui.
Alors, merci d'être venu nous parler justement de la course pour être co-porte-parole à la QS parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent parler puis c'est le fun de connaître un petit peu plus un parti du Québec. Merci.
Merci à toi.
Et pour nous, on se laisse sur une courte pause et on se revoit dans quelques minutes pour d'autres interventions sur l'IA. Restez à l'écoute à CFAQ.